bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices, chers amis HDRiens, chers amis HDRiennes, chers amis de Gramont, également chers amis de Principe Actif qui nous écoutaient au 102.4 à Évreux et au 95.9 dans le sud de l'Eure. Il est 17h, vous reconnaissez cette musique, il est 17h et c'est donc l'heure du Blabla Mix. Un Blabla Mix fort classique ce soir et néanmoins intéressant puisque nous allons recevoir tout plein de bonnes choses, notamment un très bon invité qu'on va saluer dans un instant. On va voir bien sûr l'agenda de nos amis les stagiaires qui me regardent actuellement. Bonsoir chers amis les stagiaires, ce soir Tariq, Marius, bonsoir les gars.
Bonsoir, bonsoir.
On salue également l'ami, que je ne me trompe pas, Jada, c'est bien ton prénom Jada? Incroyable, la chanceuse Jada, c'est la première stagiaire dont j'ai retenu parfaitement le prénom.
Bah Jada, viens, approche-toi.
Jada encore un peu timide qui est avec nous pour une semaine dans le cadre de son stage de 3ème. Ah bah bien sûr, elle ne m'entend pas la pauvre Jada. Salut Jada.
Salut.
Voilà, Jada qui est avec nous, vous allez certainement l'entendre très souvent à notre antenne. Cette semaine, nous sommes également, vous l'avez entendu, avec l'ami Ousmane. Ousmane, bonsoir.
Bonsoir Damien.
Et bien sûr, donc, nous sommes avec notre invité, Steven Vatkar. Bonsoir monsieur Vatkar.
Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs et à toutes les auditrices.
Vous êtes donc un auteur stéphanais à Saint-Étienne-du-Rouvray.
Tout à fait.
Un auteur de Saint-Étienne-du-Rouvray, donc auteur stéphanais qu'on va retrouver tout à l'heure. Et puis entre-temps, qu'est-ce qu'on va retrouver entre l'agenda et notre invité? On va retrouver bien sûr le haïku des enfants de l'école Clément Marot. Ce soir, ce sera donc Chénine et Annick qui sont en CE2. On va également retrouver la tchatch déo que j'ai été faire tout à l'heure sous la pluie. Chers amis, si vous voyez un petit homme avec une barbe rousse frigorifié en ce moment, bien c'est moi qui viens vous poser des questions sur l'actualité. On va retrouver la capsule du Festival Chandelle, les fameux cafés chansons des 20 ans du Festival Chandelle. Et puis bien sûr, on va retrouver de la bonne musique. On va commencer par Georges Brassens avec La Mauvaise Réputation.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens suivent une autre route que... Non, les braves gens n'aiment pas que... L'on suive une autre route que... Tout le monde m'énie de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que... Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que... Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que... Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que... Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-sac, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur cou, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que... Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que... Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
De 17h à 18h, c'est le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif.
17h05, après ce super morceau de musique, un grand classique, donc Georges Brassens avec La Mauvaise Réputation, on donne la parole à nos amis les stagiaires qui se regardent avec des yeux un petit peu inquiets et circonspects. Lequel d'entre vous va commencer? J'imagine que c'est la question qui vous déchire les tripes.
Bah, c'est moi qui va commencer. Hein.
Très bien.
Alors, moi je voulais juste vous rappeler que ce jeudi 28 novembre, il y a le concert de Aya Nakamura au Zénith de Rouen à Grand-Queville à 20h. L'adresse, vous la connaissez, c'est 44 avenue des Canadiens. Les tarifs sont compris entre 30 et 55 euros. Et...
Admettons que je sois pris d'un éventuel coup de folie, j'ai envie d'aller voir Aya Nakamura. Où est-ce que je peux réserver des places? Est-ce que c'est sur le site internet? Est-ce qu'il faut que j'aille sur place?
Vous pouvez aller sur le site internet, ouais. C'est sur billetterie, réservationbilletterie.fr.
Ok.
Ou sinon sur place.
Ouais, ou sinon sur place. Ok, merci beaucoup Marius.
Avec plaisir.
Tariq, à toi.
Alors du coup, moi, comme vous le savez très très bien, à Rouen, chaque année, il y a la grande roue qui est installée. Donc à partir du mercredi 27 novembre jusqu'au dimanche 5 janvier. Donc tous les jours de 11h à 23h. Et la place pour la grande roue est à 5€.
Effectivement, une fort belle grande roue qui fonctionne bien. J'ai l'impression qu'on a un petit souci de micro, cher Tariq, je m'en excuse, mais en tout cas, on t'a entendu. Merci à toi. Et puis, le temps qu'on se regarde paniquer en se demandant pourquoi le micro de Tariq a des soucis, bah, on va s'écouter les haïkus, donc les fameux haïkus de nos amis de l'école Clément Marot. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Chénine et Annick qui sont en CE2 et qui nous parlent de l'automne.
De couleurs, je me promène au grand air, coucher de soleil.
Projet Poésie, réalisé dans le cadre d'un jumelage avec les élèves de l'école Marot et la compagnie Saëla, Nicolas Lelièvre, Grégoire Landais et Céline Gouel.
C'est le petit plaisir du soir de retrouver ces petits haïkus et la poésie n'est pas forcément aux mains que des hommes de lettres comme notre invité de ce soir. Ça peut aussi être aux mains de vous autres, chers auditeurs. Alors n'hésitez pas, faites de la poésie. Et puis éventuellement, si vous me croisez sous la pluie avec un micro qui vient vous poser des questions d'actualité, eh bien n'hésitez pas à me répondre également. C'est la tchatch déo, sans plus de plaisanterie, je vous l'envoie tout de suite. Donc bonjour madame, qu'est-ce que vous pensez des grèves du 5 décembre? Est-ce que c'est quelque chose que vous appréhendez?
Non, pas du tout. Je pense que c'est vraiment justifié parce qu'en époque où on est en pleine, où l'économie est restreinte dans tout, je veux dire, les petits ouvriers, les petits employés ont du mal à finir leur fin de mois, alors que les riches sont de plus en plus riches. Et dans les entreprises, ils ont de plus en plus d'actions. Donc oui, c'est vraiment justifié, quoi. Il faut agir.
Là, quand je vous entends parler, j'ai l'impression que votre préoccupation principale, c'est les Français avec des petits revenus. Est-ce que vous vous sentez proche du mouvement des Gilets jaunes, par exemple?
Oui, complètement. Je me retrouve parce que, bon, après, on leur reproche d'avoir été agressif, mais je pense que c'est des deux côtés, d'une part, et d'autre part, comme toute demande, à la fin, ça finit toujours plus ou moins par violence. Je ne dis pas que je suis pour la violence, mais quand il y a des mouvements comme ça, forcément, ça génère un moment, quoi. Comme ce qui s'est passé dans les cités, à force de se faire matraquer, de mettre dans les cités toutes les ethnies étrangères, mettre les personnes qui ont des bas revenus, excusez-moi, à la fin ça pète, quoi, c'est pas possible. Un fonctionnement comme ça, ça n'ira jamais dans le bon, quoi. Donc écarter de plus en plus de riches, de plus en plus de pauvres, ça n'ira jamais dans le bon, quoi.
Comment dire, est-ce que vous trouvez que notre quartier n'a pas été touché par les gilets jaunes? On a cette impression, en tout cas moi j'ai cette impression, que les Hauts-de-Rhône, il n'y a pas beaucoup de gilets jaunes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que je me trompe?
Non, il y en a, puisque j'en connais qui vont régulièrement depuis le début aux manifestations gilets jaunes, qui revendiquent beaucoup sur les réseaux sociaux. Après, vous dire la proportion par rapport au centre-ville et sur les Hauts-de-Rouen, quelle est la proportion qu'il y a par rapport aux manifestants, ça je ne sais pas. On n'a pas fait de comptage pour dire s'il y avait beaucoup de monde ou pas.
Merci beaucoup, passez une bonne journée.
Merci, au revoir.
Au-delà des différents mouvements, au-delà donc de ce mouvement du 5 décembre, au-delà des gilets jaunes, on se rend compte qu'il y a quand même une sorte de ras-le-bol qui se dégage en France. Ousmane, je vois que tu es intéressé.
Ben oui, je suis intéressé. Je suis d'accord avec la dame parce que les gens, ils ont, comment ça s'appelle, les gilets jaunes ou les casseurs ou tout ça. Ben, s'ils avaient tout simplement manifesté, ils n'auraient rien eu de toute façon. Et donc, ils manifestent pacifiquement, il n'y a que dalle. Donc, s'ils manifestent avec un peu de, comment dire ça, de rigueur, c'est pour aussi être mieux entendu. Mais le truc, on a l'impression que la politique, je parle de toutes les politiques, la politique, elle est devenue, des êtres bouchés ou insensibles aux inquiétudes ou aux peurs de tous ces pauvres ou tous ces gens qui, pas seulement des pauvres, mais tous ces gens qui parlent de leur mal-être et ils sont devenus bouchés. Et tout ce qu'ils entendent, c'est « Oh oui, vous manifestez, on va vous envoyer des gens qui vont vous mettre dans l'ordre. » Et manifester, on sort de l'ordre parce qu'on manifeste.
Mansour dirait qu'on leur donne de la brioche. brioche. Je ne puis pas vous donner de brioche, chers auditeurs. Par contre, je peux vous donner de la bonne musique. Je propose qu'on parte en musique avant de retrouver la capsule des 20 ans du Festival Chandelle, que je vous présenterai plus amplement tout à l'heure. Là, on va retrouver Dead Rock Machine avec Good News sur Radio HDR et Principe Actif.
Sur HDR et Principe Actif, 99.1 et 102.4.
Je profite du petit temps que j'ai avant les 20 ans du Festival Chandelle pour remercier notre stagiaire Hassan qui est également ici, qui n'a pas eu l'occasion de prendre le micro mais qui me donne de très bons conseils pendant les musiques. Je te remercie Hassan. Si l'émission est meilleure après 7 minutes, vous saurez pourquoi, ce sera grâce à lui. On remercie bien sûr Hassan et puis qui on remercie aussi. On remercie bien sûr Antoine et Anne-Marie qui ont donc tendu leur micro cette semaine. C'était le 20 novembre 2015, mais cette semaine on va l'entendre puisqu'ils ont interrogé la réalisatrice camerounaise Pascale Obolo qui venait parler de son film Calypso.
Chandelle. Festival Chandelle. La capsule. L'extrait du café chanson du Festival Chandelle fait partie de cette émission diffusée initialement le 20 novembre 2015. Était invité au micro d'Antoine et d'Anne-Marie la réalisatrice camerounaise Pascale Obolo qui venait parler de son film Calypso.
Voilà, de retour donc sur ce plateau en compagnie d'Yeno et de la réalisatrice du film qu'on va voir tout à l'heure, Calypso Rose, et elle s'appelle Pascale Obolo, elle est à côté de moi. Je vais lui donner le micro, bonjour.
Bonjour.
Bonsoir.
Pascal.
Bonsoir. Bienvenue. Donc voilà, plusieurs choses, on a envie de parler beaucoup de choses avec vous. L'idée de faire ce film et d'aller vers le Calypso, c'est venu comment ?
En fait, j'avais déjà fait pas mal de films à Trinidad. J'avais commencé à faire un film sur le carnaval en Super 8, parce que moi, je viens du cinéma expérimental. Et en faisant ce film sur le carnaval, en fait, j'ai découvert la musique qui était jouée pendant le carnaval, qui était le calypso. Et en fait, moi, je suis née au Cameroun et quand, étant petite, mon père, en fait, jouait des chansons de calypso, mais c'était plutôt Arébé Lafonte ou Andro Sister. Et moi, j'ai toujours pensé que cette musique venait des États-Unis. En aucun moment, je pensais que ça venait de l'île de Trinidad. Et donc, en faisant ce film, donc j'ai décidé, en fait, d'aller dans les tentes, écouter, chanter les chanteurs de calypso. Et puis j'ai rencontré un personnage assez extraordinaire qui, de par son histoire, m'a vraiment donné envie de faire de la recherche et de faire un film. J'avais fait un film qui s'appelait Calypso à Dirty Jim, qui racontait en fait l'histoire de ce club mythique où tous les grands chanteurs de calypso allaient chanter là-bas. Et en faisant ce film, c'est comme ça que j'ai découvert en fait Calypso Rose, qui était la seule femme. Et dans ce film-là, elle avait 3 minutes dans le film. Et moi qui avais m'intéressé aussi au mouvement féministe, j'avais fait un film en banlieue sur les jeunes filles qui faisaient du rap. Et aussi j'avais fait un court-métrage sur le féminisme en Afrique. Et ça m'intéressait d'explorer, en fait, de questionner le féminisme dans les Caraïbes au travers l'histoire de Calypso Rose.
Ouais, l'idée du féminisme était présente dès le départ, même parce que apparemment vous étiez dans le rap avant, le rap qui est pas forcément connu pour les chanteuses ou pour les rappeuses, c'est un milieu très masculin. Pourquoi alors cette volonté d'aller vers les musiques où c'est généralement plus masculin, comme le calypso d'ailleurs aussi?
Tout à fait, ouais. Mais en fait, c'est vrai que moi j'ai grandi en banlieue. Parisienne dans le 94, Villeneuve-Saint-Georges, et je suis une jeune fille issue de l'immigration avec tous les problèmes que ça comprend. Et à cette période-là, dans les années 80, c'est vrai que la culture hip-hop qui arrive en France était vraiment une culture qui pour nous nous permettait de pouvoir nous exprimer, de pouvoir pratiquer une activité artistique sans forcément, comme on n'avait pas les moyens d'aller dans un conservatoire pour ceux qui voulaient faire de la danse ou de la musique. On est plutôt au départ des autodidactes, que ça soit aussi bien des artistes qui venaient, qui faisaient du graffiti, qui n'avaient jamais fait d'école des beaux-arts. Et pareil pour le rap et pour la danse. Et c'était pour nous une des seules cultures, une de celles disciplines, des disciplines artistiques où des jeunes issus de la banlieue pouvaient s'approprier, pouvaient la pratiquer et aussi quelque part aussi pouvaient s'exprimer. Effectivement, je faisais partie d'un des premiers groupes de rap qui s'appelait les Ladies Night, qui était le premier groupe de rap à Paris. Et on était effectivement, de par les textes, très féministes parce que on était dans un milieu très très machiste à l'époque.
Ouais, justement, il l'est peut-être encore un peu aujourd'hui.
Ça n'a pas beaucoup en fait évolué parce que on en parlait tout à l'heure avec Nemo en disant que effectivement, moi de mon temps, on avait plus de groupes de femmes qui rappaient, et même il y avait un petit peu des maisons de disques qui signaient un peu des groupes de rap, et alors qu'aujourd'hui c'est le désert, on est retourné un peu en arrière.
Et le calypso aussi, alors c'est venu comment? Vous l'avez dit, c'était quand vous étiez petite, vous avez été influencée par ce que vous avez entendu. Mais après le départ, vous avez passé du temps là-bas, vous avez vécu là-bas?
J'ai passé beaucoup de temps en fait. J'ai fait pas mal de films à Trinidad parce qu'en fait aussi dans mon travail, ce qui m'intéresse, c'est comment en fait les populations émigrent dans des pays avec leur culture pour créer des nouvelles formes d'écriture. Et moi, ce que je trouvais assez intéressant, moi qui suis africaine, j'arrive dans les Caraïbes et je commence à faire des recherches sur cette musique et le calypso, et j'apprends que quelque part c'est une musique qui est un mélange de musique africaine qui était la musique des esclaves à l'époque et le menuet, la musique des maîtres esclavagistes qui étaient les Français à l'époque. Et du coup, quand par exemple j'ai aussi fait des recherches par rapport au High Life, qui est une musique ghanéenne, et le High Life, en fait, c'est des chanteurs de calypso qui sont retournés dans les années 50, qui ont été faire des concerts au Ghana. Et du coup, le High Life, c'est un mélange de calypso avec la musique traditionnelle ghanéenne. Et c'est toutes ces circulations comme ça, migratoires, culturelles, de musique qui, moi, m'intéressent aussi dans mon travail, que je trouve est une forme de richesse. Et ce qui est intéressant aussi, pourquoi j'ai fait pas mal de documentaires musicaux, parce que au travers de l'histoire d'une musique, on peut découvrir l'histoire d'un pays. Et dans le film que j'avais fait sur Calypso à Dirty Jim, c'était vraiment ça, c'est-à-dire qu'on pouvait voir au travers les textes des chanteurs de Calypso comment l'histoire de l'île de Trinidad avait évolué, en partant des premiers chansons de Calypso qui étaient en créole, qui étaient chantées par les esclaves, jusqu'à aujourd'hui où il y a eu l'influence avec les bases militaires américaines qui sont arrivées pendant la Seconde Guerre mondiale, avec une influence des groupes de jazz, etc. etc. Et je trouve assez intéressante cette manière d'explorer les histoires ou l'histoire d'un pays au travers des musiques.
Et vous avez d'autres projets à venir, justement, en termes de documentaires sur la musique, ou vous partez sur autre chose?
Là, je travaille sur deux projets. Je travaille sur le projet sur l'histoire de mon groupe, sur l'histoire des Ladies Night, parce super. Que j'ai fait... quand j'étais à la fac à Paris 8, j'avais une caméra, donc j'ai archivé, j'ai filmé beaucoup mon groupe, et j'ai aussi filmé toute la période des années 80 du milieu hip-hop. Donc il y a ce projet quelque part là que je dois, ça fait 5 ans que je me dis faut que je le fasse, et je travaille toujours sur d'autres projets. Mais là, en fait, j'ai fait un teaser déjà, et en fait, je travaille dessus sur cette histoire. Toujours pareil, ce qui m'intéresse aussi, c'est le féminisme. Qu'est-ce qu'il en est du féminisme aujourd'hui en banlieue? Est-ce que ça a évolué? Qu'est-ce qu'il a le rôle, la place des femmes? Et comment, effectivement, à partir de ce groupe dans les années 80 qui était féministe, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui?
Une mise en perspective, en fait, un peu.
Oui, tout à fait. Et donc, donc il y a ce projet-là. Et puis, il y a un autre projet sur lequel j'ai commencé aussi à travailler. Parce que maintenant, effectivement, je suis plutôt dans l'art contemporain. Donc, je fais plutôt tout ce qui est vidéo d'art et documentaires expérimentaux, parce que c'est ce qui moi m'intéressait dans mes études. Et je dirige aussi une revue d'art contemporain qui s'appelle Africada, qui est plutôt sur des artistes issus des territoires du Sud. Et je travaille sur un projet sur l'architecture coloniale allemande au Cameroun. Et c'est un projet sur comment la mémoire corporelle peut dialoguer avec la mémoire architecturale. Et c'est un film, en fait, qui se construit sous forme de performance. Et je travaille avec des danseurs contemporains.
Vous parliez tout à l'heure de la difficulté de la double culture. Est-ce que c'est en lien avec le fait de s'être intéressé à des musiques où, justement, la difficulté d'être féminine apparaît aussi, ou ça n'a rien à voir?
Bah c'est un tout, effectivement, parce qu'il y a dans cette double culture, il y a souvent des confrontations liées à des cultures aussi qui sont quelque part qui rentrent en conflit. Et du coup, pareil, musicalement, c'est-à-dire que c'est vrai que quand moi je disais à mes parents que je voulais faire du rap, à cette période-là, ils ne comprenaient pas du tout. Et ils ne comprenaient pas cette envie d'avoir envie de militer. Là, parce que moi, mes parents, quand ils ont immigré en France, c'était plutôt des gens... Ma mère travaillait à l'usine, elle faisait deux boulots, elle était infirmière, elle était à l'usine à Pantin en même temps, mais militer visiter, pour eux c'était quelque chose d'assez rare, hein, qui n'était pas dans la culture. Et du coup, le fait d'avoir des enfants comme ça, qui, quelque part, qui avaient envie de revendiquer, de se battre pour, en tout cas ce qui me concernait, sur le droit et la place des femmes, pour eux c'était quelque chose qui n'était pas évident à comprendre. Mais avec le temps, ma mère elle a compris. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas évident, qui est pas, quand c'est pas dans la culture de se battre pour des droits, d'être activiste, essayer de faire comprendre ça, c'est quelque chose qui est difficile. Donc je pense qu'il faut encourager surtout les jeunes filles en banlieue de s'engager dans des associations, dans des partis politiques dans le féminisme surtout.
Oui, surtout. Et en fait, pour rajouter un peu dans le même sens, je pense qu'il n'y a pas une musique à proprement parler qui serait pour les hommes et une musique pour les femmes. Donc que ce soit slam, rap, calypso, une femme, si elle a envie de faire partie de ce courant musical, elle peut. Voilà, donc il y a aussi une génération, on ne s'interdit rien. Il ne faut rien s'interdire en tant que jeune femme ou en tant que femme de faire partie d'un courant musical, quel qu'il soit. Compris le métal.
Pourquoi pas, voilà. On va faire une petite pause, oui, musicale encore avec Yéno.
Yéno,
oui. Alors
donc
là,
qu'est-ce que vous allez nous chanter?
Donc en fait, en regardant, en découvrant Calypso Rose, c'est déjà c'était très encourageant en tant que femme artiste de voir une femme comme elle. Et donc dans le documentaire que vous allez voir tout à l'heure, elle chante une petite phrase et moi j'ai souhaité continuer la suite. En fait, j'ai imaginé la suite d'un texte. Voilà. Donc ça sonne un peu comme un reggae, on va dire, voilà, parce que je suis aussi nourrie de ces influences-là.
On vous écoute.
I want you, my friend, to understand I am a real calypsonian. So when I sing and when I pose, the world called me Calypso Rose. She's like a river, the rose in front of the sea. She sings, she is powerful, the rose unbreakable. She lives, nobody can stop her, the rose, nobody can hide her. She's light, she's flying on Calypso forever, 'cause unbreakable she lives. Whoa, 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 Calypso Rose, the Calypsonian woman. Whoa, 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 Calypso Rose, the unbreakable woman. In front of the sea, she sings. Under the sky, she lives. In front of the sea, she sings, searching for voices, the voices of the ancestors, the voice of the Almighty. Face à la mer, elle crie. Face à la mer, elle vit. Sous le ciel, elle crie. À la recherche des voix des ancêtres, de la voix du Tout-Puissant. Elle est comme une rivière, la rose, indestructible. Elle est comme une rivière, la rose, on ne peut l'arrêter. Parce qu'elle vit indestructible. Oh, 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 Calypso Rose, the Calypsonian woman. Oh, 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 Calypso Rose, the unbreakable woman.
Merci, Yéno.
Le Blabla Mix, 99.1 et 102.4 FM.
17h29 et 23 secondes, on est un petit peu en avance, mais tant pis, c'est l'heure de passer à notre invité, Steven Vatkar. Rebonsoir, monsieur Vatkar.
Et rebonsoir à toutes et à tous.
Alors, c'est un plaisir de vous recevoir. Déjà, laissez-moi vous le dire, parce que vous êtes donc un auteur de l'agglomération rouennaise, vous êtes de Saint-Étienne-du-Rouvray. Je vais vous poser la question bateau, habituelle, ordinaire, pour commencer tranquillement. Comment vous en êtes venu à l'écriture?
Voilà, ça remonte à pas mal d'années en fait. J'ai commencé l'écriture quand j'avais 9 ans. Et en fait, c'était des petits poèmes, en fait. Et après, j'ai commencé l'écriture dans mon premier livre qui s'appelle « Will, la planète paradisiaque » à l'âge de 13 ans. Et puis après, j'ai poursuivi l'écriture des livres.
Vous avez commencé l'écriture à l'âge de 13 ans ?
C'est ça.
Et qu'est-ce que c'était comme roman « Will, la planète paradisiaque » ?
C'est un roman fantastique, en fait, dans lequel je racontais le déménagement d'une famille qui habitait en ville et qui déménageait à la campagne parce qu'ils voulaient découvrir un autre monde. Et en fait, ils ont vraiment découvert quelque chose de différent. Et puis, arrivés à la campagne, ils ont découvert l'existence d'un monde qui était totalement parallèle à l'existence.
Ça m'a l'air déjà grandement métaphorique pour un auteur de 13 ans. Qu'est-ce qui vous a inspiré ça ? C'est quelque chose que vous avez connu ?
En fait, J.K. Rowling, qui a écrit les Harry Potter, je pense qu'elle a fait rêver beaucoup de monde. Et puis, c'était une femme écrivain et son parcours m'a vraiment donné envie d'écrire pour... j'ai suivi un peu son exemple, en fait.
Mais je veux dire, ce fameux roman, Will et la planète paradisiaque, c'est ça ? C'est bien ça, je me trompe pas de titre, ouais. Ce roman-là, est-ce que c'était un projet de roman qui a fini sur un ordinateur comme tant d'autres, ou est-ce que c'est un projet de roman que vous avez porté à bout, que vous avez terminé, que vous avez abouti, même que vous avez édité ?
Ouais, c'est ça, en fait, je suis auto-édité. Et en fait, au départ, j'ai commencé par l'écrire sur un blog, et puis au final, je l'ai publié en livre, et voilà, du coup.
Vous avez quand même de la suite dans les idées, parce que quand même, à 13 ans, vous l'avez auto-publié à 13 ans ? Ou ça a été fait beaucoup plus tard,
beaucoup plus tard, ouais, 7 ans après.
D'accord. Et comment on s'auto-édite ?
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, on n'a pas de structure officielle, donc une maison d'édition. Et j'ai pris le temps vraiment de construire ça et de savoir qui pourrait, de qui je pourrais m'entourer, etc. Il y avait une imprimerie qui s'appelait Lernon. Mmh. Et je les ai contactés, etc. En fait, je suis primé Envie d'agir. J'ai eu un prix qui s'appelle comme ça. Et ils m'ont donné une bourse de 1000 euros. Donc ça, c'était vraiment un premier démarrage. En fait, c'est ça qui m'a permis de me lancer dans l'édition de mes livres, en fait.
D'accord. Bon, déjà, profil atypique, puisque vous écrivez un roman fantastique qui, à l'oreille, évidemment, je ne l'ai pas lu, je m'en excuse, mais un roman qui déjà a l'air... moi, il m'a l'air... comment dire, un peu profond, on a l'impression, on entend Marius qui se gratte la barbe, qui m'a l'air un peu profond, pardon, puisque on a l'impression que c'est une métaphore de changement d'univers de façon globale. Autre chose qui est relativement atypique dans votre profil, déjà vous êtes un auteur relativement prolifique, puisque si je ne m'abuse, vous en êtes à votre 11e roman.
Oui, c'est ça.
Justement, non, pas 11e roman, 11e livre, puisqu'ensuite vous êtes passé à un style complètement différent, vous avez abandonné la fiction pour passer à un style plus près de la réalité.
C'est ça. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle « Maman et moi », un livre que j'ai écrit avec ma maman.
Donc là, c'est le dernier qui est sorti, celui-là.
Voilà, c'est ça.
Bon, un livre que vous avez écrit avec votre maman, déjà ça pose différentes questions. Parler de votre mère, parler avec votre mère à travers ce livre, c'est quelque chose qui vous vient du cœur ?
Carrément, ouais. C'est l'écriture du cœur. Et c'est vrai que c'est un bel outil de communication à travers un livre. Et puis on a eu vraiment de très beaux échanges dans l'écriture du livre, on a pris le temps de l'écrire, etc. Et une petite anecdote, en fait, on a mis 9 mois pour l'écrire. Et en fait, 9 mois, c'est le temps qu'une maman a gardant un enfant dans son ventre.
un bien beau hasard, en l'occurrence.
J'espère, je ne sais pas.
On va en revenir à Maman et moi après. Mais là, déjà, dès votre deuxième roman, on était déjà sur un style complètement différent. Parce que si je ne m'abuse, c'était une sorte de recueil des poésies que vous écriviez, c'est bien ça ? Vous l'avez écrit combien de temps après votre premier roman, ce deuxième roman ?
J'ai mis un an en tout, ouais.
Donc vous l'avez écrit à 14 ans ou à 21 ans du coup ?
21 ans.
Ah oui, 21. D'accord, ouais. Donc en fait, le fait de publier ce premier roman, ça a été une sorte d'impulsion pour vous pour ensuite continuer dans cette production-là.
Ouais, ça m'a poussé à vraiment avoir envie d'écrire encore et encore. Et j'ai commencé à poster mes premiers textes sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Alexis Dessault, qui est un acteur dans Julie Lescaut, notamment, qui a grandi au Sapin. Et du coup, il m'a encouragé justement à écrire des petits textes comme ça. Et ça m'a aidé, ça m'a réconforté un peu dans l'écriture. Et puis... au fur et à mesure que je postais les textes sur les réseaux sociaux sous forme de parchemin, donc c'est-à-dire sous forme de photos, et je demandais sur Facebook qui souhaitaient être identifiés dans le texte. Et les sujets étaient plus ou moins sensibles, entre guillemets. Donc, du coup, bah, le fait d'avoir cette sensibilité-là, et bah, ça a permis à des gens de se reconnaître dedans et pourquoi pas leur apporter un soutien, une aide à travers un écran. Parce que c'est vrai qu'un écran, voilà, c'est des choses... voilà, on peut se dire, voilà, c'est un écran, donc, du coup, on voit pas la personne en face.
Ouais, un micro fait un peu le même effet. Ouais.
Ouais. Et donc voilà.
Moi, j'ai une question. Dans le livre Maman et moi, donc, vous parlez un peu de votre jeunesse avec votre mère dans un quartier populaire. Et qu'est-ce que c'est d'être un enfant éduqué par sa mère dans un quartier populaire? Donc, je parle de l'absence du père. Qu'est-ce que c'est?
Bah, comment dire, on doit accepter, je pense, déjà. C'est pas évident. C'est pas évident d'avoir une maman qu'on doit soutenir autant qu'elle peut nous soutenir. Et on grandit avec, en fait, au final. Et je pense que ça, il n'y a rien de plus beau. Et voilà.
Il y a un grand qui a déjà dit ça, Tupac, qui disait que nous, les enfants de ghetto, qui grandissons seulement avec notre mère, il y a une relation spéciale qu'on ne pourra jamais décrire. Est-ce que ça correspond plus ou moins?
Ça me donne des frissons. Je pense que c'est vrai.
Ce fameux roman, Maman et moi, enfin roman non, je ne sais pas pourquoi je continue à dire roman, ce fameux livre, Maman et moi, vous l'avez donc écrit à quatre mains. Ça doit être tout un exercice quand même. Écrire un roman tout seul, on imagine que c'est relativement simple, relativement j'entends. Mais comment est-ce qu'on fait pour écrire un roman à deux? Enfin, un livre à deux, pardon.
Bah déjà, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment pas évident parce que, on a aussi appris à se connaître à travers un livre, en fait. Et en fait, je suis en train d'écrire la suite de ce premier livre. Et là, c'était vraiment un livre pour soutenir ma maman parce qu'elle a eu des problèmes physiques au niveau de sa santé. Et du coup, elle a arrêté de travailler, etc. Et moi, je me suis dit, l'écriture peut y apporter quelque chose et avoir cet ordre de soutien de la part des gens sur les réseaux sociaux, etc. Et voilà.
Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, est vraiment au centre de votre œuvre, puisque vous avez aussi écrit un livre qui s'appelle « Mes rencontres réelles et virtuelles », qui, si je ne m'abuse, comme son nom l'indique, retrace un peu certaines rencontres que vous avez pu faire sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression, alors reprenez-moi si je me trompe, mais qu'il y a une sorte de parallèle qui se forme entre vos œuvres et les réseaux sociaux. J'entends que pour vous, j'ai l'impression que vos œuvres sont une sorte d'interface qui vous permet de communiquer plus facilement avec l'autre.
Carrément, carrément. C'est vrai que les écrans, etc., sont importants pour communiquer, ouais. Et puis Facebook a beaucoup apporté à ma communication écrite. Et donc du coup, ça c'est important. Et puis ouais, franchement, je suis plutôt content de pouvoir faire des rencontres sur Internet, etc.
Bon, du coup, c'est devenu quelque chose de central dans votre art, ce besoin de communiquer à l'autre. Est-ce qu'on peut dire quelque part que vos romans sont un peu que vos livres sont un peu une part de vous aussi que vous offrez à votre public? Est-ce qu'on peut retrouver Steven Vadkar dans les livres de Steven Vadkar?
Bien sûr, évidemment. Mais c'est vrai que avoir cet âge-là pour écrire des livres et se mettre comme ça en avant, entre guillemets, pour raconter soi-même, je pense que c'est quelque chose de peu évident, mais voilà.
Donc vous, Ousmane,
les réseaux sociaux, vous en parlez un peu dans l'interface, préface du livre. Oui, c'est l'interface du livre pour entre vous et vos futurs lecteurs. Donc du coup, quel est le regard que vous avez sur les réseaux sociaux de manière générale?
Je pense qu'il faut aider les autres. Je pense qu'il faut être le plus juste possible avec les gens. Essayer de les soutenir. Et c'est ça aussi que j'aimerais dire, parce que le soutien, c'est quelque chose d'important, comme le partage. Et vraiment soutenir ceux qui créent, qui sont dans la création artistique notamment.
Vous disiez dans le livre, les réseaux Internet, c'est un moyen pour les êtres isolés de communiquer avec l'autre et ne pas aussi aller seulement dans un sens unique. Et il faut aussi de temps en temps couper pour revenir terre à terre.
Donc, tout à fait, ouais. Non, mais c'est vrai ce que vous dites, parce que c'est exactement ça. C'est une forme d'isolement, Internet. Hein. Et du coup, faire des petites coupures, entre guillemets, comme ça, ça permet de se reconnecter à la vie. Les arbres, toutes les choses les plus simples, en fait.
J'aimerais bien, si vous me le permettez, justement revenir sur votre parcours, parce que je continue de dire roman, parce que c'est vrai que quand on dit auteur, on pense roman. Et là, vous en avez écrit un, donc ce fameux Will et la planète paradisiaque. Est-ce que vous en avez écrit un autre ?
Je réfléchis. En fait, je crois que c'était le seul, ouais, parce que j'en ai écrit pas mal. Et je crois que c'était le seul. Oui, de la planète paradisiaque, en fait, c'était le premier et pratiquement le seul que j'ai été, que j'ai écrit.
Mais la fiction ne vous touche plus, ne vous inspire plus ? Vous préférez communiquer de façon plus directe ?
La réalité est trop difficile.
Oui. Et est-ce qu'éventuellement on pourrait imaginer un autre roman, donc peut-être une suite à Will et la planète paradisiaque, qui vous permettrait, peut-être de montrer la réalité sous un autre regard ?
C'est vrai que ça serait intéressant, ouais. Pourquoi pas, ouais. Ça serait une bonne idée, en tout cas, de faire un parallèle entre ce qui est réel et ce qui est virtuel.
Ousmane ?
Est-ce qu'il y a des auteurs normands qui vous ont inspiré ? Je parle des classiques. Hein. Damien, il les connaît. Hein. Comment ça s'appelle ?
Je surestime.
Ouais, je te survends. Je parle à Fontenelle ou je sais pas. Enfin, voilà, des grands comme cela.
En fait, je pense que ça peut paraître différent, mais je m'inspire beaucoup de musique, en fait. Et Booba, c'est la personne que j'apprécie dans l'écriture de ses textes, parce qu'il a du vocabulaire. Mm-hmm. Et puis, j'aime bien le parcours qu'il a, parce que c'est du courage quand même d'avoir ce parcours-là.
C'est dommage, si j'avais su, j'aurais mis un petit morceau de Booba. Mais bon, c'est un autre morceau d'un artiste local également. Avant de revenir donc avec vous, cher monsieur Vatkar, d'autant plus que j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur comment on s'auto-édite, parce que c'est important, je pense, pour nos auditeurs, éventuellement, de futurs concurrents, peut-être des auteurs nous écoutent. Bon, en attendant, on va s'écouter un petit peu de musique. Donc on va s'écouter Skaya avec Digital Youth.
On them face, but show them never scream. Them a play video game on them computer. Put on that stress seat and chair. Them a fierce fire. Them a pale like a vampire. Them want it worse than a bloodsucker. Them put by their life and love them. Only one thing.
Babylon loot and devour them from head to foot. pon dem face, watch all dem never scream. Dem a play video game pon dem computer. Put on that dress, sit and share. Dem a fierce fire. Dem a faint like a vampire. Dem want it worse than a blood sucker. Let you try the life and love them. Only one thing.
De 17h à 18h, c'est le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif.
Digital Youth, alors évidemment vous entendez, il y a de l'ambiance dans le studio. Digital Youth, donc un morceau que je n'ai pas choisi exprès, mais qui traite de la jeunesse accro aux réseaux sociaux, à internet, comme quoi le hasard fait bien les choses, bien sûr. Donc pour en revenir à votre parcours, monsieur Badkar, je vous le disais, j'avais cette envie de vous poser cette question. Quand on s'auto-édite, en fait, concrètement, on paye un éditeur pour nous fournir des éditions de notre livre, c'est bien ça?
Eh ben en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté une imprimerie.
Ouais.
Et puis après, en fonction de ça, je sais qu'il y en a qui font la mise en page. La correction, c'est moi qui l'a fait.
Ouais.
Et eux, ils font la mise en page. Et puis voilà, je crois. Et puis il y a d'autres choses, mais je ne sais plus exactement.
Et du coup, une fois que vous avez donc ces éditions, là, comme on peut voir par exemple votre livre de Maman ou moi que vous avez entre les mains, comment est-ce que vous les commercialisez? Comment est-ce qu'on peut aller acheter vos œuvres?
Eh bah, bien, ils sont disponibles à la maison de la presse de Sotteville-lès-Rouen.
Ouais.
Je les avais mis à Leclerc de Saint-Étienne-du-Rouvray. Et puis sinon, sur Internet.
Et comment ça se passe? Par exemple, pour Leclerc, on les contacte, on dit voilà, j'ai ce livre.
Bon, je pense qu'on peut les appeler, ouais. Mais je pense que c'est possible.
C'est quoi? Ils les prennent et ensuite vous touchez une part de la vente? Comment ça se passe?
Bon, en fait, c'est un dépôt-vente et ça dépend des librairies ou comme Leclerc, c'est une grande surface. Ça dépend. Ils prennent généralement un petit pourcentage. Donc après, nous, on a un pourcentage un peu plus grand, entre guillemets.
D'accord, ok. Vous arrivez à vivre de votre art?
Un petit peu.
Ouais. Ouais. Je veux dire, vous avez un autre métier à côté ou c'est ça qui remplit l'assiette?
Ouais, bah, je me consacre à l'écriture de mes livres et puis je fais des magazines papier aussi.
Vous faites des magazines papier?
Ouais, j'essaie de mettre en avant des personnes qui sont passionnées.
Ouais, vous avez peut-être envie de nous en parler là maintenant? Ouais,
carrément, avec plaisir.
Ah, allons-y.
Et donc en fait, l'objectif, c'est d'aider les personnes qui ont une passion et qui ont envie d'en faire leur métier. Donc je les aide, je leur fais une petite interview, quelque chose comme ça. Et j'essaye d'aller à certaines dédicaces ou quelque chose comme ça, quoi. Faire l'interview.
Comment s'appelle ce magazine? Comment est-ce qu'on peut le retrouver? Et comment est-ce que nos auditeurs peuvent éventuellement vous contacter?
Alors, il s'appelle le Journal Vatkar.
Bien nommé.
Merci.
Je vous en prie.
Donc en fait, il est disponible à la maison de la presse de Sotteville-lès-Rouen et puis sur les réseaux sociaux.
D'accord. Et du coup, pour que nos auditeurs vous contactent, si éventuellement ils ont une passion, qu'ils aimeraient parler avec vous, ça se passe par les réseaux sociaux aussi?
Ouais.
Ok, donc j'imagine que c'est Steven Vatkar sur Facebook?
Steven Vatkar, ouais. Et puis sinon, si éventuellement il y en a qui souhaitent découvrir ma page Steven Vatkar officiel.
D'accord, ok. Bah écoutez, merci beaucoup, monsieur Vatkar. Revenons-en donc à votre œuvre, à vous, et j'entends par là votre œuvre littéraire. Parlons de Mes rencontres réelles et virtuelles. Pourquoi ce livre? Ça, c'est la question à 1000 euros. Hein. Pourquoi ce livre?
Bah, c'est important, je pense. Internet a vraiment révolutionné la vie des êtres humains. Et puis, je pense qu'il y a un parallèle maintenant et savoir où est le juste. La chose la plus juste, en fait, parce que je pense que c'est utile. Et puis d'un côté, il y a cet isolement, en fait, et il y en a qui s'en rendent pas compte. Donc du coup, voilà, j'avais envie de faire un clin d'œil avec les rencontres que j'ai pu avoir sur Internet et puis en réel, en fait. Est-ce que l'un n'empêche pas l'autre?
Est-ce qu'il serait indiscret de ma part de vous demander, par exemple, un exemple de rencontre virtuelle que vous avez pu faire? Et surtout, comment vous différenciez-vous? C'est-à-dire, quelle différence vous voyez entre les rencontres virtuelles et les rencontres réelles?
Je vais parler de Martine, parce que je sais qu'elle m'écoute.
Bonsoir Martine.
En fait, En fait, Martine, je l'ai connue sur les réseaux sociaux et puis on a discuté. Elle a commencé par acheter les livres que j'écris. Et puis, on s'est rencontrés dans la vie réelle et c'était quelque chose de différent, en fait. Et puis aujourd'hui, on garde le contact, en fait, sur les réseaux sociaux. Et on va dire que c'est des personnes qui restent connectées à celles qui rencontrent, en fait.
D'accord.
C'est différent.
Finalement,
ils nous soutiennent vraiment. C'est...
Finalement, c'est à la fois une chance pour vos lecteurs et pour vous. Vous êtes en contact direct avec vos lecteurs. Est-ce qu'ils vous disent « on aimerait que tu fasses ça » Est-ce que vous avez des retours sur vos livres? Est-ce que j'imagine que ça va être très stimulant pour votre art?
C'est encourageant, ouais. Parce que c'est vrai que les artistes ont besoin de soutien, d'être encouragés. C'est pas évident. Mais c'est vrai que le public, les gens qui nous soutiennent, c'est important.
Ousmane,
est-ce que vous avez déjà été piégé par Internet?
C'est-à-dire?
Dans le sens où, un moment, en essayant de rester tout le temps au même endroit, de communiquer avec les gens et d'oublier de sortir aller rencontrer des vrais gens. Ou quelque chose comme ça.
Est-ce que peut-être, moi, je crois que je comprends ce que tu veux dire, Ousmane. Parfois, à force de rencontres virtuelles, on en oublie les rencontres réelles, finalement.
Ouais.
Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, peut-être, de vous retrouver dans une situation où vous parlez plus avec des gens sur Facebook que dans la rue?
Ouais,
super.
Ça.
Je n'aurais pas pu bien dire ma question, c'est ça.
Oui, c'est exactement ça. C'est vrai que moi-même, j'arrive à faire la différence, mais c'est vrai que... Il faut trouver la juste chose. Et je pense que ça, c'est encore différent. Hein. C'est pas... Mais voilà, quoi.
Bon, un auteur aussi prolifique que vous, j'imagine que vous avez déjà les mains dans le cambouis, dans l'encre, en l'occurrence. Vous êtes déjà en train d'écrire une autre œuvre, peut-être?
Là, j'écris la suite du premier livre de Maman et moi.
Oui, c'est vrai, vous nous le disiez, oui.
Ouais, et là, je rentre vraiment dans l'histoire qu'il y a eu avec ma maman, savoir la santé, etc., enfin, parce qu'en fait, elle a eu des problèmes au niveau de ses rotules, au niveau de son physique. Et du coup, c'est un livre qui va raconter l'histoire. Donc,
Mais finalement, globalement, sous quelle forme est ce livre, Ma maman ou moi? Qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce livre? Je veux dire, c'est des témoignages, des histoires?
Ça parle de déménagement, ça parle de petits moments de partage, comme ça, des moments de joie, etc. Et puis, des moments moins évidents, peu évident comme la santé de ma maman. Et puis c'est vraiment un mélange des deux, en fait.
Vous êtes dans cette œuvre, est-ce que vous essayez de nous faire passer peut-être un message sur le rapport à la mer, tout ça, ou est-ce que vous êtes dans du naturalisme pur et brut où vous racontez les faits tels qu'ils sont et puis à chacun d'y piocher ce qu'il veut?
C'est vrai que c'est un message, un message d'amour pour toutes les mamans. Et puis, je pense qu'il ne faut pas abandonner sa maman.
Et comment vous avez fait pour recruter votre maman comme co-auteur?
J'ai demandé. J'ai posé la question. Et puis après, ça s'est fait au fil du temps. Parce que c'est vrai qu'écrire, on peut se dire, mais j'ai pas envie d'écrire, etc. Mais ça va, ça s'est bien passé. Et puis, ça s'est fait au fil du temps. Et voilà.
Et du coup, très concrètement, elle a écrit des parties du livre ou est-ce que c'est sous forme de témoignages que vous a raconté, vous avez écrit? Comment ça s'est passé?
En fait, je lui posais des questions et puis au fur et à mesure, elle apportait des réponses. Et puis, j'essayais de raconter le... Enfin, j'étais plus dans la narration, en fait. J'étais le récit de l'histoire et voilà.
Oui, c'est presque un récit de la vie de votre maman, tel que témoigné par elle, réécrit par vous, en fait.
Oui, c'est ça.
D'accord. C'est une façon peut-être d'immortaliser aussi tous ces souvenirs que vous avez vécu avec elle?
Bien sûr. Exactement.
Ok, et donc du coup cette suite, est-ce que c'est vraiment juste un prolongement du premier ou est-ce qu'on retrouvera un autre ton, un autre message?
Ça sera vraiment l'histoire, en fait, parce que là c'était vraiment le premier livre pour soutenir ma maman, mais là ce sera vraiment pour raconter l'histoire avec plus de profondeur, entre guillemets.
Vous êtes un auteur qui est proche de ses lecteurs, un auteur qui est proche des gens, vous peut-être que je m'avance un peu, mais une grande sensibilité. Est-ce qu'éventuellement, le genre de la biographie pourrait vous intéresser?
Carrément. Ouais. Franchement, ouais.
Pourriez écrire la biographie de jeunes artistes ou par exemple, je sais pas, la biographie de jeunes animateurs radio, par exemple, ça c'est quelque chose qui serait tout à fait possible.
J'en vois un juste à côté.
Ousmane Diop, ma vie de petit dragon.
Ah d'accord, ok. C'est pour Ousmane, ok. Ok, d'accord, je comprends mieux.
Sois pas surpris parce que tu seras surpris.
Ah, le petit dragon des Hauts-de-Rouen. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié d'aborder, monsieur Vatkar, ou est-ce que vous voulez nous rappeler peut-être comment vous contacter pour vos œuvres, pour également votre magazine ?
Bah, ouais, en fait, on peut les retrouver à la maison de la presse de Soudeville-les-Rouen ou sur Facebook. Steven Vatkar et Steven Vatkar officiel. Et si je peux me permettre de faire un petit coucou à Eni qui s'est lancé dans la musique et qui a écrit une musique pour sa maman. Et puis je fais un petit coucou à ma maman qui m'écoute.
Eh bien si il nous écoute et qu'il a envie de passer un de ses vendredis, qu'il n'hésite pas à passer à notre studio. On a du café.
Merci beaucoup.
Parfois on a des petites pâtisseries et puis on fera toute une émission pour lui, il n'y a pas de souci. Merci à vous monsieur Vatkar pour votre présence, votre compagnie, votre sourire, votre bonne humeur, pour votre œuvre aussi.
Merci à tout le monde aussi de l'avoir
et puis,
été là.
Merci à vous. On a hâte de voir la suite de votre œuvre, monsieur Vatkar. Et puis, en attendant, parce qu'il nous reste un petit peu de temps, je propose qu'on s'écoute un petit morceau de musique, un petit Naman et Natania avec In My Soul sur le Mix des Cultures. plus beaucoup de temps pour Naman, bien sûr, mais il nous reste sur le temps de vous dire au revoir, chers auditeurs. Et bien sûr, adeus à nos amis portugais qui nous écoutent. Ça fait plaisir d'être écouté par plein de gens. Et puis voilà, on salue notre invité qui est en train de partir. On salue bien sûr Ousmane. Et puis je vous salue vous tous, puisque je suis le dernier encore devant ce micro. Chers auditeurs, je vous salue tous. Et puis on vous dit à demain, tranquillement, pour parler, je crois, du Téléthon. En tout cas, on sera là. On aura de la bonne musique. On aura des invités. On aura bien sûr de l'agenda. On aura tout ce qu'il faut. Je vous laisse donc et je salue tous les amis du Mix des Cultures.